Emmanuel Kant. La religion dans les limites de la raison. Quatrième partie. Conclusion. Du vrai culte et du faux culte. Remarque générale. Le bien dont est capable l'homme par lui-même en vertu des lois de la liberté, par opposition à celui qu'il ne peut accomplir qu'avec l'assistance surnaturelle, nous pouvons l'appeler nature pour le distinguer de la grâce. En employant la première expression, nous ne voulons pas faire entendre qu'il s'agit, en l'espèce, d'une propriété physique distincte de la liberté, mais simplement que nous avons affaire à un pouvoir que règlent les lois de la vertu dont nous avons au moins la connaissance, et auquel la raison, puisqu'il est analogue à la nature, applique une méthode visible et compréhensible pour elle. Pour ce qui est de la grâce, au contraire, nous demeurons plongés dans une ignorance totale, ne sachant ni quand, ni en quoi, ni à quel degré elle agit en nous. La raison se trouvant ici, comme sur toutes les questions ayant trait au surnaturel, dont fait partie la moralité, comme sainteté, entièrement privée de la connaissance des lois en vertu desquelles opère la grâce. Qu'à notre faculté morale incomplète, il faut l'avouer, et même à notre intention imparfaitement pure, ou faible tout au moins, vienne s'ajouter quelque chose de surnaturel qui nous aide à remplir tout notre devoir, c'est là un concept transcendant et une simple idée dont nulle expérience ne peut nous garantir la réalité. Et même comme idée, à un point de vue purement pratique, il y a, à l'admettre, une audace très grande, car elle est difficilement compatible avec la raison, étant donné qu'il faut, pour qu'on nous attribue un mérite comme celui de nous bien conduire moralement, que nos actes ne soient pas dus à une influence étrangère, mais soient au contraire le résultat du meilleur usage possible de nos énergies personnelles. Cependant, qu'il soit impossible à ces deux agents de coexister et de marcher l'un à côté de l'autre, c'est ce qu'on ne peut point prouver. Car la liberté elle-même, bien qu'il n'entre dans son concept rien de surnaturel, nous demeure pourtant, quant à sa possibilité, tout aussi incompréhensible que le surnaturel qu'on voudrait regarder comme le complément de sa détermination spontanée, mais défectueuse. Mais alors que nous connaissons de la liberté tout au moins les lois suivant lesquelles elle doit se déterminer, je veux dire les lois morales, nous sommes incapables de savoir la moindre des choses touchant l'assistance surnaturelle. Nous ignorons si d'elle provient réellement en nous une perceptible force morale, ou même dans quel cas et sous quelles conditions il nous est permis de compter sur elle. Et par conséquent, en dehors de la supposition générale que ce dont la nature est incapable en nous, la grâce viendra l'accomplir, pourvu que nous ayons employé la nature, c'est-à-dire nos propres forces, dans la mesure du possible, nous ne trouvons à faire aucun autre usage de cette idée. Nous ne savons ni de quelle manière, outre nos constants efforts à nous bien conduire, nous pourrions attirer sur nous cette coopération de la grâce, ni comment il serait possible de déterminer en quel cas nous aurions à compter sur elle. Cette idée nous dépasse ainsi totalement. Et d'ailleurs, il est convenable que nous nous en tenions à une distance respectueuse comme d'une chose sacrée. Nous y gagnerons d'éviter une illusion qui nous ferait croire que nous accomplissons nous-mêmes des miracles, ou bien que nous voyons des miracles se faire en nous, ce qui nous rendrait incapables de tout emploi de la raison et nous convierait à cette indolence par laquelle on attend d'en haut, dans une passive inaction, ce que l'on devrait chercher en soi-même. On donne le nom de « moyen » à toutes les causes intermédiaires que l'homme trouve à sa disposition pour réaliser une fin. Et la seule chose qui puisse nous mériter l'assistance céleste, aucun autre moyen n'existe, est une application sérieuse à perfectionner, autant que possible, le côté moral de notre nature pour nous rendre ainsi susceptibles d'être rendu parfait, ainsi qu'il faut l'être pour plaire à Dieu, ce qui n'est pas à la portée de l'homme. Le secours divin que nous attendons, n'ayant pas lui-même d'autre fin, à vrai dire, que notre moralité. Mais qu'au lieu de chercher son salut de cette manière, l'homme impur aime mieux recourir à certaines institutions sensibles, évidemment à sa disposition, mais qui, incapable par elle-même de rendre aucun homme meilleur, devrait cependant le sanctifier d'une façon surnaturelle. C'est à quoi l'on pouvait s'attendre a priori, et c'est ce qui arrive en fait. Le concept de ce qu'on appelle le moyen d'attirer la grâce, bien que contradictoire en soi, d'après ce qui vient d'être dit, donne pourtant naissance à une illusion personnelle, aussi commune que préjudiciable à la vraie religion. Le vrai culte moral de Dieu, celui que les fidèles doivent lui rendre à titre de sujet, faisant partie de son royaume, et aussi comme citoyen d'un état céleste, régi par les lois de la liberté, est sans doute invisible comme cet empire lui-même, c'est-à-dire qu'il doit être un culte des cœurs, en esprit et en vérité, selon l'évangile de Jean. Et ne peut consister que dans l'intention d'accomplir tous les vrais devoirs regardés comme des préceptes divins, au lieu de se réduire à certaines actions ayant Dieu en vue exclusivement. Seulement l'invisible a besoin, malgré tout, chez l'homme, d'être représenté par quelque chose de visible, de sensible, d'en être accompagné, ce qui est plus encore, ainsi que le veut l'intérêt pratique, et, bien que des sens intellectuels, de se rendre, pour ainsi dire, susceptible d'intuition, par une certaine analogie. Ce moyen, dont sans doute nous ne pourrions point nous passer, nous expose pourtant au danger du malentendu qui consiste à nous figurer notre devoir comme se ramenant au seul et unique culte de Dieu, et par une illusion qui se glisse en nous aisément, l'on arrive à l'envisager comme étant lui-même ce culte. Et d'ailleurs, c'est ce nom qu'ordinairement on lui donne. Ce prétendu culte de Dieu, si on lui restitue son véritable esprit et sa vraie signification, qui est d'être une intention consacrée au règne de Dieu en nous, tout comme hors de nous, peut être divisé, même par la raison, en quatre devoirs spéciaux, à côté desquels des cérémonies qui n'ont pas, avec eux, de lien nécessaire, sont venues se placer comme correspondantes, parce qu'on y a vu, dès l'Antiquité, de bons moyens sensibles propres à servir de schème au devoir et à nous porter de cette manière à maintenir notre attention fixée sur le véritable culte de Dieu. Tous ces devoirs ont une fin commune, favoriser le bien moral. Premièrement, il nous faut tout d'abord fonder ce bien en nous, l'y établir solidement et réveiller constamment dans nos âmes l'intention d'agir moralement. À cela correspond la prière privée. Deuxièmement, nous devons travailler ensuite à l'extension extérieure du bien, en fréquentant les assemblées publiques qui se font aux jours consacrés, pour y exposer à voix haute des doctrines, pour y exprimer des souhaits religieux et des intentions religieuses qui, de cette manière, se communiquent à tous. À cela correspond la fréquentation de l'Église. Troisièmement, il nous faut encore transmettre ce bien à la postérité, en faisant de nouveaux adeptes, que nous recevrons comme membres dans la communauté de la foi et que nous devrons élever dans notre croyance. À cela correspond le baptême dans la religion chrétienne. Quatrièmement, nous devons enfin maintenir cette communauté de foi par le moyen d'une cérémonie publique et souvent répétée, cérémonie qui rend tout à fait permanente l'union des fidèles en un corps moral, et cela suivant le principe de l'égalité de leurs droits et d'une participation commune aux fruits du bien moral, À cela correspond la communion. Dans les choses de religion, tout acte qui n'est point uniquement moral, mais auquel pourtant on recourt comme à un moyen capable en lui-même de nous rendre agréables à Dieu pour satisfaire ainsi, grâce à lui, tous nos vœux, dénote une foi fétichiste. La persuasion où l'on est que, pour qu'un effet se produise, quand ni les lois physiques ni les lois morales de la raison ne seraient à même de le produire, il suffit qu'on croie fermement que ce qu'on désire se produira et qu'on accompagne ses croyances de certaines cérémonies. Même s'il a déjà la conviction que tout dépend ici du bien moral auquel seule l'action peut donner une existence, l'homme esclave des sens cherche des détours qui lui permettront d'échapper à cette pénible condition et les trouve dans cette idée que, si seulement il se plie au rite, à la cérémonie, Dieu prendra cela pour le fait lui-même, ce qui assurément devrait être appelé une immense grâce accordée par Dieu, si l'on pouvait y voir quelque chose de plus qu'une grâce dont nous rêvons dans une fausse confiance, ou même, on peut le dire, qu'une confiance hypocrite. Et c'est ainsi que l'homme, dans toutes les croyances qui existent dans l'univers, s'est imaginé posséder des moyens de grâce en certains usages, qui, cependant, dans tous les cultes, ne se rapportent pas, comme dans le christianisme, aux concepts pratiques de la raison et aux sentiments qui leur sont conformes. C'est le cas, par exemple, dans la foi musulmane, des 5 grands préceptes. Les ablutions, la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage à la Mecque. Il serait convenable d'en accepter l'aumône, si elle procédait d'un vrai sentiment vertueux et en même temps religieux de nos devoirs envers l'humanité, ce qui la rendrait assurément digne d'être regardée effectivement comme un moyen de mériter la grâce. Mais étant donné au contraire qu'elle peut, dans cette croyance, s'allier au larcin qui arrache à d'autres les dons que dans la personne des pauvres, on offre en sacrifice à Dieu. L'aumône n'est pas digne d'être ainsi mise à part. 3 sortes de foi illusoires peuvent naître, en effet, pour nous, dès que nous dépassons les limites de la raison par rapport au surnaturel, qui, d'après les lois rationnelles, n'est un objet ni de l'usage théorique, ni de l'usage pratique. C'est, premièrement, la croyance à la connaissance empirique de choses qu'il nous est pourtant impossible de regarder comme arrivant conformément aux lois objectives de l'expérience, la croyance au miracle. Deuxièmement, l'illusion par laquelle nous nous considérons comme obligés d'admettre, parmi nos concepts rationnels, des choses dont pourtant nous sommes incapables, de nous-mêmes et par la raison, d'arriver à avoir l'idée, parce que nous les estimons nécessaires à notre perfection morale, la croyance au mystère. Troisièmement, l'illusion qui nous porte à croire que par l'emploi de simples moyens naturels, nous pouvons produire un effet qui reste pour nous un mystère, c'est-à-dire provoquer l'influence de Dieu sur notre moralité, la croyance au moyen de grâce. Les 2 premières sortes de croyances artificielles ont fait l'objet des 2 remarques générales qui servent d'appendice aux 2 parties immédiatement précédentes. Il ne nous reste donc à traiter maintenant que des moyens de grâce qu'il ne faut pas confondre avec des effets de la grâce. Influence morale, surnaturelle, dans lesquelles nous sommes uniquement passifs, mais dont la prétendue expérience est une extravagante erreur du ressort du pur sentiment. Petit 1. La prière, conçue comme culte formel, comme culte intérieur de Dieu, par conséquent comme moyen de grâce, est une erreur superstitieuse, un fétichisme, car elle n'est pas autre chose qu'une déclaration faite de nos souhaits à un être qui n'a aucun besoin de se voir expliquer nos sentiments intimes. Elle équivaut conséquemment à rien. On n'accomplit par elle aucun des devoirs imposés par les commandements de Dieu. Et par suite, elle ne saurait effectivement servir Dieu. Souhaiter d'être agréables à Dieu par nos intentions et nos actes, et le souhaiter de tout cœur, en accompagnant toutes nos actions du sentiment que nous les consacrons au service de Dieu, voilà l'esprit de la prière qui peut et qui doit sans relâche exister en nous. Quant à revêtir ce souhait, ne fût-ce qu'intérieurement, de paroles et de formules, cela peut tout au plus avoir la valeur d'un moyen propre à vivifier, à diverses reprises, ces sentiments qui existent en nous-mêmes, mais cela ne saurait immédiatement avoir aucun rapport avec la complaisance divine, ni par conséquent être un devoir pour chacun. Note. Dans le souhait intérieur dont nous faisons l'esprit de la prière, l'homme tend seulement à agir sur lui-même, à vivifier ses sentiments au moyen d'idées de Dieu. Tandis que dans celui qu'il exprime par des paroles et par suite extérieurement, il cherche à influer sur Dieu. Les prières du premier genre peuvent donc être faites avec la plus grande sincérité, bien que l'homme soit loin d'avoir la prétention de pouvoir assurer même l'existence de Dieu comme une chose absolument certaine. Les prières du second genre, discours que l'on adresse à Dieu, supposent cet objet suprême comme étant présent personnellement et nous font prendre, au moins, même intérieurement, l'attitude requise de gens pour qui sa présence n'est pas douteuse, dans l'espoir que, si même il n'en était rien, au lieu de nous nuire, cette attitude pourra plutôt nous gagner sa faveur. Ce genre de prière, la prière parlée, ne peut donc présenter un degré de sincérité aussi parfait que le premier, le simple esprit de la prière. Pour trouver confirmé la vérité de cette observation, vous n'avez qu'à imaginer un homme pieux, bien pensant, mais par ailleurs borné par rapport au concept religieux, ainsi purifié, qui serait surpris par un autre, je ne dis pas en train de prier à voix haute, mais dans une attitude qui dénote qu'il prie ainsi. Sans que je vous le dise, vous vous attendrez de vous-même à le voir trahir l'embarras et la confusion de quelqu'un qui se trouve dans une position dont il a à rougir. Et pourquoi cela? Parce qu'un homme qui se surprend en train de se parler haut à lui-même se soupçonne aussitôt à atteindre un petit accès de folie. Et c'est exactement ce qu'on pense de lui, sans trop se tromper, quand on voit que, bien qu'il soit tout seul, il est occupé à gesticuler, comme on ne peut le faire que lorsqu'on a quelqu'un devant les yeux, ce qui pourtant n'est pas le cas ici. Or, le maître de l'Évangile a très excellemment su exprimer l'esprit d'une prière dans une formule, qui est la suppression de toute prière, sans en excepter même celle dont nous parlons, en tant que prière à la lettre. On n'y trouve pas autre chose que la ferme résolution d'avoir une bonne conduite. Résolution qui, jointe à la conscience que nous avons de l'humaine fragilité, renferme un souhait permanent d'être des membres dignes du royaume de Dieu. Nous n'y demandons pas à proprement parler quelque chose que Dieu pourrait, dans sa sagesse, préférer ne pas nous donner. Nous y exprimons un souhait qui, s'il est sérieux, agissant, produit son objet de lui-même, nous rend agréable à Dieu. Même le souhait qui concerne le pain quotidien, c'est-à-dire tout ce dont nous avons besoin pour conserver notre existence pendant un jour, par cela même qu'explicitement, il ne vise pas la durée prolongée de cette existence, mais qu'il est, au contraire, l'effet du sentiment d'un besoin purement physique, et plutôt l'expression des volontés de la nature en nous qu'une demande réfléchie et visant ce que l'homme veut. L'homme, en effet, réclamerait le pain de tous les autres jours. Et une pareille demande se trouve ici assez clairement écartée. Une telle prière, imprégnée d'intention morale, et que seule anime l'idée de Dieu, produit d'elle-même, en sa qualité d'esprit moral de la prière, son objet, qui est d'être agréable à Dieu, et peut seule, à ce titre, être faite avec foi, c'est-à-dire se regarder comme sûre d'être exaucée. Mais un privilège de cette espèce ne peut appartenir qu'à la moralité en nous, car même en limitant au pain de chaque jour les demandes de sa prière, nul ne peut être sûr de l'avoir exaucée par Dieu, comme si, pour la sagesse divine, c'était une nécessité que de lui donner cette grâce. Il se peut que cette sagesse trouve plus conforme à ses fins de laisser aujourd'hui mourir de faim le quémandeur. C'est par ailleurs une folie absurde et en même temps téméraire que d'essayer, par l'importunité agaçante de nos prières, d'amener, s'il se peut, Dieu à se départir, pour notre avantage actuel, du plan tracé par sa sagesse. Il ne nous est donc point possible, si son objet n'est point moral, de compter avec certitude voir notre prière exaucée, c'est-à-dire de demander avec foi quoi que ce soit. Je vais plus loin. Son objet serait-il moral si, cependant, il n'est possible que par influence surnaturelle, ou si, du moins, nous nous bornons à l'attendre de cette source parce que nous ne voulons pas nous efforcer nous-mêmes de l'atteindre? Ce serait le cas, par exemple, de la conversion qui consiste à revêtir l'homme nouveau et qu'on nomme une renaissance. Il est alors tellement peu sûr que Dieu trouve conforme à sa sagesse de suppléer par voie surnaturelle à notre imperfection, dont nous sommes seuls responsables, que l'on a plutôt des motifs de s'attendre à tout le contraire. L'homme, donc, même dans ce cas, ne peut pas prier avec foi. On peut, en conséquence, expliquer ce qu'on peut entendre par une foi qui accomplirait les miracles et qui serait toujours inséparable de la prière intérieure. Dieu ne pouvant pas concéder à l'homme la puissance d'agir surnaturellement, parce que c'est là une contradiction. Et l'homme étant incapable de son côté, étant donné les concepts qu'il se fait des bonnes fins possibles dans le monde, de déterminer d'après eux le jugement que porte sur de pareilles fins la sagesse divine, et par conséquent aussi d'employer en vue de ses desseins la puissance divine au moyen d'un souhait produit en lui et par lui-même. Le don des miracles dès lors, je veux dire celui qui dépend de l'homme d'avoir ou non, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, etc., est inconcevable, pris à la lettre. Pour que cette foi ait un sens, il faut donc entendre par elle la simple idée de la décisive prépondérance de la qualité morale de l'homme sur les autres motifs, à condition qu'il la possède dans la perfection entière agréable à Dieu, que, dans sa sagesse suprême, Dieu pourrait avoir pour agir. C'est-à-dire que, grâce à elle, nous pouvons avoir confiance que, si nous étions un jour où nous devenions absolument ce que nous devons être et que nous pourrions devenir, dans une approximation toujours progressive, la nature devrait plier à nos désirs qui, eux-mêmes, alors, ne serait jamais insensé. Pour ce qui est de l'édification, à quoi vise surtout la prière à l'Église, il faut reconnaître que si les prières publiques ne sont pas non plus un moyen de grâce, elles sont cependant une cérémonie morale, tant par l'union de toute assistance dans le chant de l'hymne de foi que par les oraisons officiellement adressées à Dieu par la bouche de son ministre, au nom de toute la communauté et comprenant tous les intérêts moraux des humains. Et ces cérémonies où les intérêts en question sont représentés comme des intérêts publics et où les souhaits de chacun doivent être donnés comme se confondant avec les souhaits de tous par rapport à la fin, l'arrivée du règne de Dieu, peuvent élever l'émotion jusqu'à l'enthousiasme moral, tandis que l'horizon privé, manquant de cette idée sublime, perd peu à peu, par habitude, toute influence sur notre âme. Ces prières publiques ont de plus, mieux que l'autre prière, des motifs rationnels de revêtir le souhait moral qui constitue l'esprit de la prière du vêtement des formules oratoires. Sans que, pour ce motif, on aille cependant croire à l'évocation obligée de l'être suprême ou attribuer à cette figure de rhétorique une valeur toute particulière, la valeur d'un moyen de grâce. C'est qu'en effet ici, on se donne un but spécial, qui est de se servir d'une cérémonie par laquelle est représentée l'union extérieure de tous les hommes dans ce souhait commun du royaume de Dieu pour porter en chacun les mobiles moraux à leur maximum d'énergie, ce qu'on ne saurait faire d'une manière plus habile qu'en s'adressant au chef de ce royaume comme s'il se trouvait spécialement présent en ce lieu. Fin de la note, retour au texte. Donc, je reprends. Quant à revêtir ce souhait, ne fût-ce qu'intérieurement, de paroles et de formules, cela peut tout au plus avoir la valeur d'un moyen propre à vivifier, à diverses reprises, ces sentiments qui existent en nous-mêmes, mais cela ne saurait immédiatement avoir aucun rapport avec la complaisance divine, ni par conséquent être un devoir pour chacun. Car un moyen ne peut être prescrit qu'à celui qui en a besoin en vue de fins déterminées. Et il s'en faut bien que tout homme ait besoin du moyen dont nous nous occupons. Je veux dire de converser en lui-même et avec lui-même en supposant que de cette manière, il s'entretiendra avec Dieu bien plus intelligiblement. C'est au contraire en nous efforçant d'épurer continuellement et d'élever notre intention morale que nous devons chercher à vivifier en nous cet esprit seul de la prière et d'une façon suffisante pour que nous puissions enfin nous passer de la lettre de la prière, du moins pour ce qui nous regarde. Car ainsi que tout ce qui tend indirectement à un but précis, cette lettre affaiblit plutôt l'action d'idée morale, qui, envisagée subjectivement, porte le nom de dévotion. Il y a, par exemple, dans la contemplation de cette sagesse profonde que la création divine révèle dans les choses les plus petites, et de la majesté que l'ensemble nous manifeste, telle que de tout temps les hommes ont pu les voir, mais qui, dans les temps modernes, sont arrivés à nous frapper d'admiration extrême, non seulement une très grande force qui nous porte à cet état d'âme, où pour ainsi dire les hommes sont anéantis à leurs propres yeux, et que l'on nomme adoration, mais aussi une force qui, relativement à notre spéciale destination morale, élève tellement notre âme que devant elle, les paroles, même les prières du roi David, qui savait peu de ces merveilles, doivent disparaître comme un son vide, car c'est quelque chose d'inexprimable que le sentiment de cette intuition de la main de Dieu. Mais sachant par ailleurs qu'avec la propension de leur âme à la religion, les hommes transforment volontiers tout ce qu'ils ne visent en réalité qu'à leur perfection morale personnelle en un culte de courtisans, où les actes d'humilité, ainsi que les chants de louange, sont, ordinairement, d'autant moins sincères et moraux qu'ils s'expriment en plus de mots. Il est nécessaire, au contraire, même quand on exerce de bonne heure à prier les enfants, qui encore ont besoin de la lettre, de leur faire entendre soigneusement que le discours parlé, même quand il naît intérieurement, ainsi que les tentatives qui ont pour but de mettre l'âme en état d'avoir de l'idée de Dieu une conception qui doit être très voisine d'une intuition. Que ces prières ne valent rien par elles-mêmes et servent seulement à vivifier en nous l'intention de vivre de manière à nous rendre agréables à Dieu, auquel cas, la parole a simplement le rôle d'un moyen qui agit sur l'imagination. Car tous ces hommages dévotieux risqueraient, sans cela, de ne pas produire autre chose qu'une adoration de Dieu hypocrite, remplaçant le culte pratique qui ne consiste point en de purs sentiments. Petit 2. La fréquentation de l'Église, conçue comme une façon solennelle de rendre à Dieu dans une Église un culte extérieur quelconque, est, à ce point de vue, la représentation sensible de la communion des fidèles et constitue, non seulement, par rapport aux individus, un moyen précieux d'édification, mais encore en ce qui les touche, comme citoyens d'un état divin, à représenter sur la terre un devoir immédiatement obligatoire pour eux tous. En supposant qu'une pareille église ne contienne pas des cérémonies conduisant à l'idolâtrie ou pouvant gêner la conscience, ce qui par exemple serait le cas de certaines adorations adressées à Dieu personnifié dans sa bonté infinie sous le nom d'un homme, puisque la représentation sensible de l'être suprême est contraire aux préceptes de la raison. « Tu ne t'en feras point d'image », dit l'Ancien Testament. Note. Si l'on cherche à ce mot « édification » un sens qui lui soit propre, on ne peut guère entendre par « édification » que la conséquence morale de la piété sur le sujet. Elle ne saurait se confondre avec l'émotion, déjà contenue dans le concept de piété. Bien que le plus grand nombre des gens qui s'estiment pieux, et que pour cela on nomme dévots, la vase consistait tout entière en ce sentiment. Par suite, le mot « édification » doit exprimer l'effet exercé par la piété sur l'amélioration réelle de l'homme. Or, pour arriver à se réformer, il est indispensable de se mettre à l'ouvrage systématiquement, d'ancrer profondément en son cœur de fermes principes, selon les idées bien comprises, d'élever là-dessus les sentiments requis par la différente importance des devoirs qui leur correspondent, de les défendre et de les prémunir contre les agressions de nos inclinations et d'édifier de cette manière, peut-on dire, un homme nouveau qui sera le temple de Dieu. Il est aisé de voir qu'un pareil édifice ne peut monter que lentement. Mais il faut au moins que l'on s'aperçoive que quelque chose a été fait. Si des hommes se croient très édifiés, par une homélie, une lecture ou un cantique, alors que, cependant, rien absolument n'est construit et qu'ils n'ont même point mis la main à l'ouvrage, c'est que, vraisemblablement, ils espèrent que cet édifice moral, à l'exemple des murs de Thèbes, s'élèvera tout seul, grâce à la musique de leurs soupirs et de leurs désirs ardents. Fin de la note, retour au texte. Quant à vouloir faire par elle-même de cette fréquentation un moyen de grâce, comme si c'était là immédiatement servir Dieu, et qu'à la célébration d'une telle cérémonie, qui est la simple représentation sensible de l'universalité de la religion, Dieu avait attaché des grâces spéciales. C'est une erreur qui est en parfait accord, je l'avoue, avec la façon de penser de tout bon citoyen d'un état politique et avec les convenances extérieures, mais qui non seulement ne contribue en rien à donner à l'homme la qualité de bon citoyen du règne de Dieu, mais qui fausse encore cette qualité et sert à déguiser sous des couleurs trompeuses aux yeux des autres et à ses propres yeux le peu de fond moral de son intention. Petit 3. La consécration solennelle, qui n'a lieu qu'une fois à la communauté de l'Église, c'est-à-dire l'admission d'un nouveau membre dans l'Église, dans le christianisme la cérémonie du baptême, est une solennité d'une haute importance qui impose de grandes obligations, tant au néophyte, s'il est capable de professer lui-même sa croyance, qu'à ses témoins, qui s'engagent à l'élever avec soin dans cette croyance. Le but qu'elle se donne est saint, puisqu'elle vise à faire l'homme citoyen d'un état divin. Mais en elle-même, elle n'est pas sainte. Il ne faut pas y voir une action accomplie par d'autres et produisant dans le sujet, en même temps que la sainteté, la capacité de recevoir la grâce divine. Elle n'est donc pas un moyen de grâce, malgré l'excessive importance qu'on lui attribuait dans les premiers temps de l'Église grecque, où l'on estimait que par le baptême, tous les péchés pouvaient être effacés d'emblée, ce qui révélait manifestement la parenté de cette erreur avec une superstition presque plus que païenne. Petit 4. Il y a une autre cérémonie qui est répétée plusieurs fois et dont l'objet est de renouveler, de perpétuer et de propager la communauté de l'Église en suivant les lois de l'égalité. Je veux parler de la communion. Pour nous conformer à l'exemple du fondateur de cette Église, en même temps qu'en mémoire de lui. Nous pouvons lui donner la forme d'une jouissance commune savourée à la même table. Elle contient en soi quelque chose de grand, quelque chose qui élargit la façon de penser des hommes, étroite, égoïste et intolérante, jusqu'à l'idée d'une communauté morale universelle, et l'on y trouve un excellent moyen d'exciter les membres d'une paroisse au sentiment moral de l'amour fraternel qu'elle représente à leurs yeux. Quant à prêcher que des grâces particulières aient été attachées par Dieu à la célébration de cette cérémonie, et à donner comme un dogme de foi que la communion, acte purement ecclésiastique, est en outre un moyen de grâce, c'est une erreur dont l'effet ne peut être que directement opposé à l'esprit de la religion. Le sacerdoce, ainsi, serait en général la domination usurpée que le clergé s'arroge sur les âmes, en leur faisant croire qu'il a la possession exclusive des moyens d'obtenir la grâce. Toutes les illusions semblables que l'homme se forge à lui-même en matière de religion partent d'un principe commun. De tous les attributs de Dieu, sainteté, bonté et justice, il ne veut retenir d'ordinaire que le second, et s'y attache immédiatement pour échapper ainsi à la condition qu'il effraie de régler sa vie sur la sainteté. Être un bon serviteur est chose fatigante. Toujours on vous parle de vos devoirs. Aussi l'homme souhaiterait-il d'être plutôt un favori, parce que l'on serait très indulgent à son égard et que, s'il venait à manquer trop gravement à son devoir, l'intercession d'un autre en extrême faveur viendrait tout réparer, lui demeurant toujours le simple valet qu'il était. Mais pour s'assurer par quelque apparence de la possibilité de son intention, il transporte à Dieu, comme d'ordinaire, le concept qu'il a des humains, sans en accepter leurs défauts. L'exemple des meilleurs, des chefs de notre espèce, lui montre que la sévérité législatrice, la grâce bienfaisante et la justice rigoureuse n'agissent pas, comme ce devrait être, chacune isolément et par elle-même, sur la teneur morale des actes du sujet, mais qu'elle se mêle dans la pensée du monarque humain, quand il prend ses résolutions et que l'on n'a par suite qu'à chercher à mettre de son parti l'un de ses attributs, la sagesse fragile de la volonté humaine pour déterminer les autres à l'indulgence. Et cela étant, il espère pouvoir procéder de même, avec Dieu, en se tournant simplement vers sa grâce. C'est pour cela qu'il était important pour la religion, elle aussi, de séparer les attributs de Dieu, ou plutôt ses rapports avec l'humanité, en ayant recours à l'idée d'une personnalité triple, idée grâce à laquelle nous devons par analogie concevoir cette distinction et connaître chacun de ses attributs pris à part. Dans ce but, il s'adonne à toutes les démonstrations cérémonieuses imaginables qu'il croit de nature à prouver le grand respect qu'il a pour les ordres divins, sans qu'il ait besoin de les observer. Et voulant que ses vœux inertes servent eux-mêmes à réparer ses transgressions de la loi, il appelle, ouverture de guillemets, « Seigneur, Seigneur », fermeture de guillemets, uniquement pour n'avoir pas besoin de, ouverture de guillemets, « faire la volonté de son Père Céleste », fermeture de guillemets. Arrivant ainsi à avoir de cérémonies qui ne doivent être que des moyens destinés à vivifier des sentiments vraiment pratiques, l'idée qu'elles sont intrinsèquement des moyens de grâce. Il décide même qu'il faut le croire. Et il fait de cette croyance un élément essentiel de la religion, qui, pour l'homme du peuple, consiste même en cela tout entière, abandonnant aux soins bienveillants de la Providence de faire de lui un homme meilleur, tandis qu'il se livre à la dévotion, manière passive de témoigner son respect pour la loi de Dieu, au lieu de s'appliquer à être vertueux. Ce qui oblige à dépenser ses forces dans l'accomplissement du devoir qu'on vénère. Alors que, cependant, la vertu et la dévotion peuvent seulement, grâce à leur union, former l'idée qu'exprime le mot de piété, sentiment véritable de la religion. Quand, dans son délire croissant, cet homme, qui se dit le favori du ciel, s'imagine sentir en lui de particuliers effets de la grâce, et va jusqu'à prétendre à l'intimité d'un commerce donné pour mystérieux avec Dieu, la vertu alors le dégoûte et se change pour lui en objet de mépris. Aussi n'est-il pas surprenant d'entendre le monde se plaindre de voir que la religion contribue si peu encore de nos jours à l'amélioration des hommes et que la lumière intérieure, la lumière sous le boisseau, de ces favoris de la grâce, ne se montre pas au dehors sous la forme de bonnes œuvres, qu'on est en droit d'attendre de leur part, car les prétentions qu'ils affichent justifient bien cette exigence, à meilleur titre que des autres hommes, doués d'une honnêteté naturelle, et qui, sans finasser, voient dans la religion qui suivent non de quoi remplacer l'intention vertueuse, mais le moyen capable d'en favoriser les progrès. Pourtant, le docteur de l'Évangile nous a donné ces actions extérieures accomplies dans l'expérience comme étant la pierre de touche, permettant à chacun de juger les hommes selon leurs fruits et de se connaître lui-même. Ah, on n'a pas vu, jusqu'ici, que ces hommes, qui se prétendent comblés de faveurs extraordinaires, objet d'une élection à part, l'emportent tant soit peu sur les hommes qui sont naturellement probes, et sur qui l'on peut se fier dans les relations ordinaires, en affaires et dans les cas graves. Il serait plus juste de dire que, pris en bloc, ceux-là soutiendraient difficilement la comparaison avec les derniers, ce qui prouve bien que la bonne voie n'est pas d'aller de la justification par la grâce à la vertu, mais de la vertu à la justification par la grâce. Fin du livre.